Georges Gibillon, bonjour à tous. Il est à présent Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 19 janvier. Bonjour à tous. Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi. On commence par la Tunisie. Des centaines de manifestants tunisiens ont jeté lundi des pierres et des coltelles. Bonjour à tous. Des centaines de manifestants tunisiens ont jeté lundi des pierres et des cocktails Molotov vers les forces de l'ordre qui ont, elles, fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser la foule. Des affrontements entre la police et près de 300 manifestants ont eu lieu à Tunis, la capitale, dans le quartier d'État d'Amon, selon l'agence Reuters. Des résidents ont fait état de violence dans les villes de Kasserine, Gafsa, Sousse et Monastir. Plus de 600 personnes ont été arrêtées, a indiqué le ministère de l'Intérieur lundi, après une troisième nuit d'émeutes dans de nombreuses villes de Tunisie où la police a déployé des forces qui ont affronté les jeunes du quartier. Près de 140 personnes ont péri en trois jours dans des affrontements entre les tribus rivales au Darfour, au Soudan, les violences les plus sanglantes depuis la signature en octobre d'un accord de paix entre le gouvernement et des groupes rebelles. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux autorités soudanaises de déployer tous les efforts pour parvenir à une désescalade de la situation, mettre un terme au combat, restaurer l'ordre et la loi et assurer la protection des civils, selon son porte-parole. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été proclamé réélu lundi par la Cour constitutionnelle, mais deux électeurs sur trois n'ont pas voté, essentiellement en raison de l'insécurité dans ce pays en guerre civile depuis 8 ans et théâtre d'une nouvelle offensive rebelle. Deux casques bleus ont été tués par des rebelles lundi en Centrafrique, portant à 7 le nombre de morts parmi le contingent de la mission de l'ONU depuis le début de cette offensive rebelle. Et 4 soldats ont été tués lundi au Niger et 8 autres gravement blessés dans l'explosion d'une mine artisanale dans le sud-est du pays, proche du Nigeria. Des éléments de l'armée nigérienne sont tombés sur un engin explosif improvisé, l'un des principaux modes opératoires djihadistes dans la région, a indiqué le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Les assaillants appartenaient au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, selon une revendication de l'attaque de dimanche rapportée par l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes. Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi la prolongation pour au moins 8 jours du couvre-feu nocturne en vigueur depuis début janvier dans 2 régions, dont Dakar, pour tenter de stopper la progression du COVID-19. Cette décision annoncée à la télévision publique par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom maintient en place une mesure qui devait à l'origine expirer lundi soir. Elle intervient alors que le président Macky Sall doit promulguer aujourd'hui, mardi, une loi qui lui permettra d'instaurer un couvre-feu sans avoir à décréter l'état d'urgence ni passer par l'approbation du Parlement. Le nouveau variant du coronavirus identifié en Afrique du Sud en octobre est désormais prédominant dans le pays du continent le plus touché par la pandémie. Il n'est pas plus mortel, mais il est 1,5 fois plus contagieux, a affirmé lundi un panel d'experts sud-africains. La découverte de ce nouveau variant a forcé les autorités sud-africaines à mettre en place de nouvelles restrictions au mois de décembre. Le président Donald Trump, ici aux États-Unis, a annoncé lundi la prochaine réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l'espace Schengen, aux Britanniques, Irlandais ainsi qu'aux Brésiliens à compter du 26 janvier, avant d'être immédiatement contredit par la porte-parole du futur président Joe Biden. C'est un nouvel épisode d'une transition sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis, le président sortant Donald Trump entendant limiter au minimum les contacts avec l'équipe de Joe Biden. Donald Trump prévoit d'ailleurs de quitter Washington avant même la cérémonie d'inauguration de son successeur demain mercredi. VOA Afrique Info en ligne de mire dans ce journal. Côte d'Ivoire, le parti de Blé Goudé se retire d'une coalition de l'opposition. Incarcéré en Russie, l'opposant d'Albanie appelle les Russes à sortir dans la rue contre le pouvoir. Et ici aux États-Unis, une femme est soupçonnée d'avoir voulu vendre aux Russes l'ordinateur de Nancy Pelosi, la chef des démocrates, à la Chambre des représentants. Jean-Roger Billon, on revient dans un instant. Nous émettons de Washington. La suite de nos informations en ce mardi 19 janvier 2021. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, a annoncé son retrait d'une coalition de l'opposition, dénonçant des guerres de positionnement. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, suspend sa participation aux activités liées aux élections législatives avec les plateformes de l'opposition, a écrit Patrice Saraka, secrétaire général du parti. Pour le COGEP, ces élections doivent être vues comme une opportunité pour renforcer la cohésion et l'unité de l'opposition, mais ont malheureusement mis au grand jour les appétits et autres guerres de positionnement entre des entités pourtant supposées être partenaires. Les deux principaux partis d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konabédié et le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, ont annoncé début janvier avec leurs alliés leur participation au scrutin du 6 mars. Mi-janvier, le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a lui annoncé son boycott des législatives. Charles Blé Goudé a fui la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2010-2011. Il a été transféré à la CPI en 2014 pour être jugé aux côtés de Laurent Gbagbo. Les deux hommes ont été acquittés en janvier 2019, mais doivent attendre la décision sur un éventuel procès en appel en liberté conditionnelle.
L'opposant russe Alexei Navalny a appelé hier ses partisans à manifester contre le pouvoir après son arrestation la veille et son incarcération jusqu'au 15 février. Nathalie Barge.
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Alexei Navalny appelle ses partisans à descendre dans la rue. « Ne vous taisez pas, résistez », a-t-il déclaré depuis un commissariat transformé en salle d'audience. Son bras droit, Léonid Volkov, a annoncé l'organisation de manifestation le 23 janvier. L'appel intervient alors que le camp de l'opposant préparait une campagne active en vue des législatives de septembre. M. Navalny accuse le président Vladimir Poutine d'avoir ordonné son assassinat en août dernier, ce que nie la Russie. Après avoir survécu à un empoisonnement présumé, il a été soigné en Allemagne. L'opposant a été interpellé dès son retour à Moscou dimanche pour non-respect d'un contrôle judiciaire en allant se faire soigner à l'étranger. Dans l'attente du jugement le 2 février, Navalny a été placé en détention pour 30 jours lors d'une audience improvisée au commissariat de Khimki.
Ici aux États-Unis, une femme de 22 ans est soupçonnée d'avoir voulu sans succès vendre au renseignement russe l'ordinateur de Nancy Pelosi, la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants. L'ordinateur avait été dérobé lors de l'attaque du Capitole le 6 janvier. Bagasikura.
Selon l'acte d'accusation, Riley June Williams, originaire de Pennsylvanie, faisait partie des émeutiers qui se sont introduits au Capitole. Des images diffusées par la chaîne britannique ITV montrent une jeune femme dont la mère a confirmé l'identité auprès de la chaîne, enjoignant à la foule de se rendre à l'étage du bâtiment. Un témoin anonyme interrogé par les autorités américaines affirme avoir vu d'autres vidéos dans lesquelles Riley Williams s'est saisi d'un ordinateur ou d'un disque dur dans le bureau de Nancy Pelosi, selon ce même témoin cité dans l'acte d'accusation, qui affirme être un ex-partenaire de la jeune femme. Cette dernière avait prévu d'envoyer le matériel à un contact en Russie afin qu'il le vende au service de renseignement extérieur russe. L'opération aurait finalement échoué pour des raisons non précisées et Riley Williams serait donc en possession de l'ordinateur ou l'ayant détruit. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de la jeune femme dont la mère a indiqué qu'elle avait quitté le domicile familial. L'acte d'accusation n'a pour l'instant retenu contre Riley Williams que les chefs d'effraction et de troubles à l'ordre public, mais pas de vol. Près de 70 personnes ont déjà été inculpées suite aux événements du 6 janvier, selon le ministère américain de la Justice.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par John Lindon.
Le déficit commercial du Sénégal s'est dégradé de 53,1 milliards de francs CFA à un rythme mensuel pour s'établir à 169,7 milliards de francs CFA à la fin du mois de novembre 2020. C'est ce qu'indiquent les données établies par la Direction de la prévision et des études économiques qui ajoutent que cette situation résulte d'une hausse des exportations de biens moins importante que celle des importations. La DPEE précise d'autre part que le taux de couverture des importations consommation par les exportations est estimée à 43,2% contre 47,71% en octobre 2020, soit un recul de 4,5 points de pourcentage. Au Cameroun, Proparco et la Société Générale s'associent pour la relance des entreprises post-COVID. Les deux entités ont signé un partenariat permettant aux entreprises d'accéder au financement bancaire en vue de relancer leurs activités durement frappées par la crise sanitaire liée au coronavirus. À en croire Financial Afrique, cet accord pourrait permettre aux entreprises de se voir octroyer des prêts de 12 à 48 mois représentant jusqu'à 3 mois du chiffre d'affaires de l'année 2019, garanti à hauteur de 80% par le groupe AFD. L'Algérie a enregistré 20 milliards de dollars de recettes d'exportation hydrocarbures, soit une baisse de 40% en glissement annuel selon la Tribune Afrique, qui cite le rapport annuel du ministère de l'Énergie publié dimanche. Les volumes d'exportation étaient quant à eux en recul de 11% à 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole. Ces contre-performances représentent un coup dur pour l'État algérien pour qui les ventes à l'étranger d'hydrocarbures constituent la première source de revenus.
À présent, la page de sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le 6e championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Deux matchs au programme aujourd'hui dans le groupe D. Le premier match met aux prises la Zambie et la Tanzanie à 15h temps universel. Et dans la seconde rencontre, la Guinée et la Namibie s'affrontent à 19h TU. Hier à Douala, au stade de la réunification, le champion en titre, le Maroc, a battu le Togo 1-0. Dans le second match, les Amavubi rwandais et les Crânes ougandais ont fait match nul 0-0. Les Marocains prennent donc la tête du groupe D avec 3 points. Handball, le mondial masculin bat son plein en Égypte. Les Pharaons ont signé leur première défaite après 2 victoires. L'Égypte est tombée d'un seul point devant la Suède, vainqueur 24-23. Le Maroc a essuyé un troisième revers face à l'Islande, cette fois-ci 23-31. Deuxième défaite pour l'Algérie, battue par le Portugal 26-19. À suivre ce soir, Japon-Angola. Les Léopards de la RDC affrontent Bahreïn, la Tunisie, l'Espagne. Ici, en basketball, la NBA a annoncé le report du match prévu demain entre Charlotte et Washington. Les Wizards, n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de 8 par équipe est requis pour jouer, Washington doit faire 106 joueurs positifs au COVID-19 et d'autres également tenus d'observer une quarantaine du fait qu'ils sont leur cas contact potentiel. C'est le 5e match consécutif manqué par les Wizards en 8 jours et le 15e reporté depuis qu'a débuté il y a presque un mois la saison régulière de la NBA. Malgré tout, l'entraîneur des Washington Wizards, Scott Brooks, a réaffirmé sa confiance en la NBA qui ne veut pas interrompre momentanément sa saison. Toujours ici aux États-Unis, le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, Phil Neville, a quitté ses fonctions d'entraîneur pour devenir coach de l'Inter Miami, le club de son ancien coéquipier David Beckham. L'arrivée de l'ancien défenseur de Manchester United et des Three Lions après le limousage début janvier de l'entraîneur de Miami, Diogo Alonso, a été confirmée par un communiqué de la formation floridienne. Je ne pourrais pas être plus heureux du fait que vous rejoignez l'aventure, s'est réjoui David Beckham, propriétaire de l'Inter sur Instagram. Neville peut se targuer de bons résultats avec la sélection féminine d'Angleterre, qui l'a mené en demi-finale de la Coupe du Monde 2019. Il sera remplacé après les Jeux Olympiques de Tokyo prévus cet été par la Néerlandaise Sarina Wiegman, qui a guidé les Pays-Bas jusqu'à la finale du Mondial 2019.
Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin, une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Lyon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, une star du reggae, le musicien engagé ZDS, a sorti il y a quelques semaines Résilience africaine, une chanson qui est une sorte de coup de gueule et qui se veut une réponse à certains analystes et autres organisations internationales qui demandaient à l'Afrique de se préparer au pire dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Je ne vous en dis pas plus, retrouvons à Ouagadougou notre correspondant, Lamine Traoré.
ZDS, comme tous les matins, arrive dans ses bureaux. Nous avons affaire au directeur général du CENAZA, le Centre National des Arts du Spectacle et de l'Audiovisuel. ZDS, musicien.
On a une mission de service public aussi, parce que c'est pour de faire la promotion de la culture de façon générale, quoi, du Burkina Faso. Donc oui, c'est un emploi, c'est une fonction exaltante.
L'Afrique doit se préparer au pire, c'est l'avertissement adressé par l'Organisation mondiale de la santé.
2% du commerce mondial, 2% de victimes de ce mal.
C'est à partir de ce bureau que le musicien a composé sa chanson « Résilience africaine ». Il n'a pas aimé le discours de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique sur la pandémie du coronavirus.
En attendant, toute proportion gardée, c'est pas nous qui sommes en train de disparaître, bien au contraire. Voilà.
ZDS, musicien.
C'est vrai que y a des cas de mort, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous avait prédit. La résilience, c'est ça. Je refuse cette mort psychologique qu'on a voulu nous imposer à coup de discours fracassants.
Dans un petit bistrot de la place, ZDS vient ici retrouver des amis de tous les jours. Le social est très important pour les musiciens.
Quand on a la prétention d'être un artiste engagé, forcément, il faut être très sociable et très social aussi. Donc nous, on puise nos thèmes, nos sources d'inspiration viennent de notre environnement.
L'engagement du musicien n'est plus a démontré pour ses amis.
Il a toujours été engagé depuis ses premiers albums jusqu'à aujourd'hui.
Salia Topin, ami du musicien.
Malgré qu'il a aujourd'hui, il occupe aujourd'hui une fonction dans l'administration, voilà, il trouve le temps, n'est-ce pas, de continuer son métier d'artiste.
Ossidi Johan est aussi un ami du musicien.
L'Africain ne doit pas être complexé vis-à-vis des dénigreurs, de ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs. Quand on écoute en profondeur, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus supérieurs et qu'ils sont immunisés par le virus du Covid, contrairement à ce qui se passe, et ils meurent et nous on résiste. Et c'est pour amener un message aux Africains.
ZDS.
Les Africains doivent s'assumer. Je voudrais dire aussi qu'il faudrait que l'Occident arrogant arrête d'infantiliser les Africains.
Le musicien burkinabé a toujours traité les thèmes d'actualité. Quand il s'agissait de la question de l'immigration en France, il avait écrit une chanson pour répondre au président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. Cette chanson, Résilience africaine, annonce le prochain album du musicien. Lamine Traoré, VOA Afrique, Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Nigeria est l'un des pays ayant les taux de mortalité maternelle extrêmement élevés. Il représente environ 20% des décès maternels dans le monde selon l'OMS. Les détails avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
À l'hôpital national d'Abuja, le gynécologue Mohamed Ahmad Rabia fait partie des médecins qui se battent pour réduire le taux de mortalité maternelle au Nigeria. Son département reçoit entre 500 et 700 femmes en état de grossesse chaque mois qui viennent pour des soins prénataux et ayant des complications.
Nous avons des patientes qui ne sont pas enregistrées dans cet hôpital. Nous les plaçons sur la liste spéciale des patientes. Ce sont des patientes qui n'ont pas eu de suivi médical prénatal et elles viennent avec des complications et nous les recevons en grand nombre.
La mortalité maternelle est un problème de santé publique au Nigeria. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le taux de mortalité maternelle du Nigeria est de 814 décès pour 100 000 naissances vivantes. Le risque d'une femme nigériane de mourir pendant la grossesse, l'accouchement ou après un avortement est inquiétant et est de 1 sur 22, contrairement au risque dans les pays développés estimé à 1 sur 4900 selon toujours l'OMS. Vekri Braimar était venu pour ses consultations chez Dr. Mahmoud Ahmad Rabia.
C'est un problème, et surtout si vous n'avez pas quelqu'un pour vous assister dans vos déplacements ou même pour vous acheter au marché. Finalement, vous allez vous trouver seul à faire des va-et-vient. Résultat, vous pourrez avoir des complications, des stress, et cela peut aussi causer un saignement chez la femme.
Les femmes nigériennes seraient également 500 fois plus susceptibles de perdre la vie en couche par rapport aux pays les plus avancés du monde. Selon le Centre des ressources pour les droits humains et l'éducation civique, une ONG locale, la situation est surtout alarmante dans les zones rurales où les femmes en état de grossesse ont des difficultés à effectuer la période du suivi prénatal. Dans le nord du Nigeria, par exemple, de nombreuses femmes meurent des complications liées à la grossesse, comme l'ont révélé de nombreux rapports d'ONG opérant sur place. On pense que cela est dû à l'inaccessibilité des centres de santé pour les femmes enceintes. Ngasi Ndebo est la fondatrice de Peace Aid Medical Initiative qui assiste les femmes en grossesse dans les milieux ruraux.
Le manque d'équipement dans les centres de santé. La majorité des centres de santé sont dans des conditions déplorables. Il n'y a absolument rien comme équipement pour aider dans les accouchements. Il y a aussi le manque d'ambulances, pas de moyens de transport. En plus, le retard des femmes en grossesse pour se rendre dans les établissements sanitaires.
Le taux de mortalité maternelle dans plusieurs pays à revenu faible ou intermédiaire est alarmant, avec environ 34% des décès maternels dans le monde survenant uniquement au Nigeria et en Inde, précise l'Organisation mondiale de la santé. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama se donne comme mission d'unir un pays divisé suite à l'assaut contre le Capitole qui a obligé les autorités à fortifier Washington. Il a aussi annoncé un ambitieux plan de relance économique et un vaste programme de vaccination contre le Covid-19. Joe Biden annonce aussi une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et le reste du monde. Avec nos invités, nous allons décortiquer le programme de Biden et le caractère historique de la vice-présidence de Kamala Harris. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur voa.com.
C'est demain, mercredi, que Joe Biden prêtera serment sur les marches du Capitole à Washington en tant que 46e président des États-Unis. Michel Quinn a enquêté, enjeu et perspective de cet événement placé sous haute surveillance sécuritaire. Récit John Lindon.
Des gardes armés à travers la capitale américaine s'emploient à assurer que l'investiture cette semaine de Joe Biden comme 46e président des États-Unis se déroule de manière pacifique. La cérémonie, déjà modifiée à cause de la pandémie, sera encore plus restreinte après les violences qui ont secoué le Capitole le 6 janvier dernier. L'équipe de Joe Biden laisse entendre que cette investiture enverra un signal visuel aux Américains et au monde sur la résilience de la démocratie américaine. Kate Bedingfield, future directrice de la communication de la Maison-Blanche.
Nous attendons avec impatience que le président élu Biden prête serment le 20 janvier à midi.
Le président Donald Trump n'a pas l'intention d'assister à la prestation des serments de Joe Biden. Au lieu de cela, Trump prévoit d'organiser une cérémonie de revoir à la base militaire d'Andrew dans le Maryland, avant de monter à bord une dernière fois du Air Force One en direction de Palm Beach en Floride. Il quitte la Maison-Blanche avec un taux d'approbation de 29%, le plus bas de sa présidence, selon le Pew Research Center. Dans tout le pays, les sièges des assemblées des États ont aussi renforcé leur sécurité en prévision des manifestants par ceux qui, à tort, prétendent que les élections du 3 novembre ont été volées à Trump. Dans la ville d'Olympia, capitale de l'État de Washington, de hautes clôtures ont été installées autour du bâtiment du Capitole en prévision des manifestations. Joe, un résident d'Olympia dans l'État de Washington.
Eh bien, je suis déçu que nous soyons à ce stade, que nous devions installer des barrières pour empêcher les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est un Américain et qui attaquent notre démocratie.
John Hess, partisan de Trump dans l'État de Washington.
Like
Ces clôtures sont faites pour des gens comme moi, parce que ce qui s'est passé ici, c'est que l'État a reconnu que la majorité des gens ne croient pas que cette élection était légitime. Pour défendre l'élection contre la majorité du peuple, voilà ce qu'ils font. Donc ils dressent les clôtures et font venir des gardes armés pour défendre une élection volée.
En s'adressant à une nation divisée, le discours d'investiture de Biden se concentrera probablement sur l'unité. Kate Bedingfield, nouvelle directrice des communications de la Maison-Blanche.
Je pense que vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un moment où le président élu Joe Biden travaillera vraiment pour essayer de tourner la page sur les divisions et la haine de ces quatre dernières années et de vraiment présenter une vision positive et optimiste du pays et tracer une voie à suivre qui nous invite tous à travailler ensemble.
Et le moins qu'on puisse dire est qu'une investiture présidentielle en pleine pandémie et en période de troubles a un objectif principal, envoyer un message fort à la nation et au monde.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dans le reportage qui va suivre, Mike O'Sullivan de VOA fait état de l'atmosphère qui règne dans le pays alors que les États-Unis s'apprêtent à tourner une page de leur histoire. De Seattle à Miami, en passant par la Californie, les Américains nous font part de leurs attentes et de leurs inquiétudes. Dilly Dico raconte.
Après l'assaut sans précédent du Capitole par les partisans de Trump et les funérailles d'un policier du Congrès, l'une des cinq personnes décédées lors de l'émeute, la capitale vit au rythme des mesures de sécurité prises pour l'inauguration de Joe Biden et suit la procédure de mise en accusation du président sortant, Donald Trump. En raison des menaces de violences persistantes, un habitant de Seattle se dit inquiet.
Il y a beaucoup de partisans de Donald Trump qui sont plus enragés que inquiets. Ils sont dangereux. Je ne pense pas qu'ils vont abandonner ainsi.
Selon lui, ces personnes sapent les efforts du président élu Joe Biden qui doit faire face aux problèmes du pays.
Ils disent constamment qu'il est un président illégitime et nous ne sommes qu'au début de son mandat.
À Miami, un immigré cubain s'inquiète de la politique progressiste de Biden.
Je m'attends à une catastrophe économique, politique et sociale pour la simple raison qu'il est socialiste.
Mais pour cet autre résident de Miami, quiconque est président mérite d'être respecté. Il espère que Biden réussira.
J'espère qu'il atteindra ses objectifs. Il est notre président maintenant, donc tout comme je respectais le président Trump, j'espère que Joe Biden fera de son mieux pour l'Amérique. Nous devons gagner.
Cette femme a également de l'espoir.
Je suis très heureuse parce que je pense qu'il va y avoir de grands changements.
À Santa Monica, en Californie, cet homme demande à Biden de s'attaquer aux problèmes urgents du pays.
La priorité est le virus. Nous devons faire un meilleur travail. Nous ne pouvons pas continuer à en parler. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Il va faire quelque chose à ce sujet.
Pour ces deux hommes, Biden doit surmonter les divisions politiques.
J'espère que Biden pourra rassembler la nation.
Je l'espère.
Il y a tellement de divisions. Je suppose que l'on pourrait appeler cela de la ségrégation politique. C'est très intense.
Avec les menaces de violences persistantes dans la capitale et dans tout le pays, l'ambiance nationale est plutôt sombre.
C'est la pagaille. Je ne sais pas comment ils vont y remédier. J'espère qu'ils pourront le faire.
Les nerfs à fleur de peau, les Américains se préparent pour la cérémonie d'investiture, habituellement une période de célébration.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous.